Plutôt roman policier ou roman feel good? Fantasy ou science-fiction? Quel que soit votre style, découvrez de nouveaux auteurs qui vous donneront envie de lire avec les interviews de Passion Livre sur 91FM.
Bienvenue dans Passion Livre. Nous sommes au Salon du Livre de Palaiseau, le Salon Dimension, avec Claire Marie.
Salut Simon.
Pour interviewer un auteur qui s'appelle Nicolas Godemet. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Bonjour.
Nicolas est écrivain, professionnel des médias, de la culture et de la technologie. Votre premier roman, La fin des idoles, a été publié en 2018 aux éditions Tohu Bohu. Et vous avez reçu le prix Jules Renard 2019. Et ce livre a également été adapté en série audio. Et là, vous avez publié « Nous n'avons rien à envier au reste du monde », votre deuxième roman. Votre premier livre parlait des mécanismes de la célébrité et des dérives de la société du spectacle. Et là, avec « Nous n'avons rien à envier au reste du monde », nous partons en Corée du Nord pour suivre une histoire d'amour entre deux jeunes adolescents. Comment vous êtes passé d'un sujet à l'autre? Quel était le cheminement qui vous a permis d'aboutir à ce roman?
Il se trouve que je suis allé en Corée du Nord pendant l'écriture de « La fin des idoles ». Et les thèmes sont très différents, mais il y a quand même des similitudes au sens où les deux décrivent comment un système socio-politique qui utilise aussi les médias peut avoir un impact sur les individus. Donc ça c'est un point commun. Un autre point commun, c'est que j'ai aussi utilisé les mêmes techniques d'écriture, de scène, même si La fin des idoles est beaucoup plus long que nous n'avons rien à envier au reste du monde. Après, évidemment, ces deux histoires très, 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 très différentes. J'avais envie d'écrire une rencontre amoureuse. Et donc, le thème de l'amour est beaucoup plus développé dans Nous n'avons rien à envier au reste du monde. Et effectivement, ça se passe en Corée du Nord. Donc, l'univers est très, très, très différent de ce qu'on peut connaître de la société du spectacle occidental.
Donc, c'est un peu le côté plus tragique des idoles, justement, comment une société totalitaire peut justement mettre en avant des idoles jusqu'à annihiler presque la vie de son propre peuple.
Oh, oui, alors la fin des idoles, c'était aussi une référence à Nietzsche. Il y a beaucoup moins cette dimension nietzschienne dans Nous n'avons rien à envier au reste du monde, mais sont mis effectivement en avant en Corée du Nord, dans le quotidien de chacun. Des quasi-dieux hein, qui sont les grands dirigeants, les chers dirigeants du pays, le cher président qui est le fondateur, et puis c'est son fils, le cher général qui a dirigé après lui, et aujourd'hui le cher maréchal Kim Jong-un, le petit-fils.
J'ai trouvé moi assez fascinant dans votre livre, c'est comment, déjà parce que en venant à ce salon, on a souvent l'habitude de lire et d'interviewer des auteurs de dystopie, et Ce qui m'a frappé, moi, ce dont je me suis rendu compte, pas tout de suite dès le début du roman, c'est que je l'abordais comme une contre-utopie, jusqu'à me dire, mais non, en réalité, ça se base sur ce qui se passe réellement en Corée du Nord. C'est ça que j'ai trouvé fascinant. C'est vrai que par rapport à justement un livre où plutôt on suit le héros qui subit tout ça et qui, malgré lui, qui essaie de se battre, là, c'est vrai qu'on a un héros qui, dès le début, compare même. Enfin, un petit peu après, mais compare même sa première expérience avec l'héroïne dont il est fou amoureux. L'étalon qu'il a pour savoir ce qu'il ressent, parce qu'il dit je ne trouve pas les mots, c'est un peu comme nos chers, enfin c'est un peu comme le cher général, mais c'est, bon, c'est au-dessus, c'est en dessous, mais voilà, c'est son maître étalon, donc c'est assez fascinant. Et je me suis demandé dans quelle mesure vous aviez pu avoir un réel aperçu de ça en Corée du Nord, parce qu'on sait qu'aller en Corée du Nord, c'est très guidé comme trajet. Donc, comment vous avez pu ressentir ça? Ou est-ce que c'était au retour en lisant des choses ou...
Alors, déjà, effectivement, ça ressemble à une sorte de dystopie, mais c'est vraiment ancré dans ce qui se passe au quotidien dans ce pays, et ça se passe de nos jours. Donc c'est vraiment le réel, c'est une littérature du réel et pas du tout de la science-fiction. Mm-hmm. Comment j'ai pu accéder à ça? Mm. Alors déjà, en allant là-bas, effectivement on est guidé, on nous montre ce
on
que...
Voit pas, on voit pas n'importe quoi,
ce
j'imagine.
Ce que nos guides ont bien envie de nous montrer. Euh, et, Et donc, effectivement, c'est une sorte de voyage un peu Potemkin où tout a l'air fabuleux. D'ailleurs, on est très, très bien traité, on mange très bien, on va dans des restaurants où on est quasiment les seuls, puisque c'est des restaurants réservés aux visiteurs étrangers, en fait.
La vitrine,
C'est la vitrine. Mais on voit quand même pas mal de détails qui n'ont pas pu être effacés. Par exemple, on est allé dans une belle ville qui s'appelle Kaesong, qui est d'ailleurs une ville qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc, pour y aller, depuis Pyongyang, il faut prendre l'autoroute. Et donc, on a pris l'autoroute. Et là, on voit des choses, en fait, par la vitre, tout simplement. C'est-à-dire que sur la route, on voit qu'il y a une voiture, c'est la nôtre.
On voyage pas en fourgon blindé, donc on voit bien un petit peu.
Voilà, mais du coup, on voit bien qu'il n'y a pas, y a personne sur cette voiture, sur cette route. Il y a des nids de poules partout parce que ça coûte cher d'entretenir
des routes.
Et puis, sur le côté, de temps en temps, on voit passer des gens en vélo ou à pied.
Donc, la réalité vous saute aux yeux.
Oui. On voit quand même beaucoup de choses. Après, tout le détail qui a nourri mon roman, je l'ai obtenu par des recherches documentaires poussées. Donc le voyage a suscité mon intérêt. Et ensuite, j'ai lu énormément de documents qui viennent soit des rapports de l'UNESCO, des agences de renseignement. Parce que paradoxalement, la Corée du Nord, qui est le pays le plus fermé du monde, est aussi l'un des pays les plus surveillés du monde. Et donc, quand on cherche, on peut trouver beaucoup d'informations. Il y a des agences de renseignement sud-coréennes qui publient un certain nombre de choses. Je reçois d'ailleurs toujours des newsletters de l'agence sud-coréenne. Les Américains ont fait beaucoup de choses. Et surtout, le plus intéressant pour moi, c'est qu'il y a beaucoup de transfuges. C'est-à-dire depuis les années 50, depuis que le pays s'est constitué après, et depuis la guerre de Corée, il y a quelques milliers de Nord-Coréens qui ont choisi et réussi à s'enfuir. Et certains, ils sont accueillis au terme d'un périple très très compliqué, hein, parce qu'évidemment, pas du tout passer de la Corée du Nord à la Corée du Sud, ça c'est absolument impossible. Tout est, la DMZ, la zone de démarcation démilitarisée, est très est encadrée justement par plein de militaires, donc on ne peut absolument pas passer par là. Donc c'est des périples complexes qui passent par la Chine et d'autres pays avant éventuellement d'aboutir en Corée du Sud. Et là, les Nord-Coréens sont reconnus comme des citoyens coréens et donc sont accueillis par les Sud-Coréens, mais doivent vraiment être rééduqués parce que c'est pas du tout. Enfin, la Corée du Sud est un pays qui est aussi très très difficile. Les deux pays en fait sont deux extrêmes. L'un, c'est un extrême plutôt, l'extrême totalitariste communiste. Et puis l'autre, c'est quand même l'extrême capitaliste avec la compétition à outrance, ou dès la maternelle. Et puis dès la maternelle, même il y a des concours pour entrer à l'école maternelle. Enfin, c'est très, très, très dur aussi. Et donc il y a une rééducation, un temps d'adaptation qui est absolument nécessaire. Mais donc un certain nombre de ces Nord-Coréens qui ont réussi à s'enfuir, qui ont, au terme d'un périple, réussi à rejoindre et à s'installer dans un nouveau pays, souvent la Corée du Sud, parfois les États-Unis, parfois ailleurs. Certains ont publié des récits de comment ils ont vécu là-bas et pourquoi ils ont voulu s'enfuir, comment ils ont fait, etc. Et donc ça, c'est une matière très, très riche qui nourrit tout le livre.
Donc ça a aiguisé votre curiosité, en fait, ce séjour. Et après, oui, c'est ça qui... Oui, je me doutais bien que vous n'aviez pas pu recueillir là-bas des témoignages de gens qui vous diraient, vous savez, en fait, tous les jours, on doit réciter des hymnes. Mais c'est fascinant, cet endoctrinement-là qui est raconté. Ça fait froid dans le dos.
Oui, tout à fait. Voilà. Et alors, petit détail sur le voyage. Vous y êtes allé, on a besoin de justifier son voyage en Corée du Nord. On vous demande pourquoi vous venez.
Oui.
Oui, donc du coup, c'est le tourisme.
Oui.
C'est... D'accord.
Tourisme.
Okay. Parce que si vous dites, j'ai écrit un livre.
On peut plus. On peut plus. Maintenant, c'est fermé la Corée du Nord depuis le Covid. Donc moi, j'étais avant le Covid.
D'accord.
Et à l'époque, effectivement, on pouvait faire des demandes de visa pour du tourisme.
D'accord.
Et ils vérifiaient plein de choses. Ça prenait plusieurs mois et on avait obtenu une autorisation. Un visa pour rejoindre la Corée du Nord depuis la Chine, hein, puisqu'on ne peut pas y aller depuis n'importe quel pays.
Oui, Alors, comme disait Claire-Marie, effectivement, tout est bien documenté sur la façon de vivre des Nord-Coréens et surtout sur cet endoctrinement, sur ce... On voit ce héros qui se bat finalement entre ses sentiments. C'est vraiment une histoire d'amour hein, entre deux jeunes adolescents. Alors, j'espère pas écorcher les noms. C'est Yoon-gi. Et donc, qui est un jeune homme qui tombe amoureux d'une jeune fille qui s'appelle Miran. Et il se bat justement entre ses sentiments et ce qu'on lui a inculqué. Et vraiment, presque à la limite, il essaie de se raisonner lui-même en disant non, tu n'as pas le droit de ressentir ça, comme s'il y avait une voix intérieure qui lui disait tu dois être un bon citoyen, tu dois lutter contre ça. Il y a tout un système aussi d'auto-culpabilisation. On doit faire son mea culpa publiquement. Tout ça est très, très bien décrit. Et puis, c'est un livre qui est très sensitif, je trouve. Vous avez réussi à retranscrire ce qu'est un premier amour, ce qui est universel, finalement. Et ça, c'est très, très bien retranscrit. Vous vous êtes appuyé notamment sur Roméo et Juliette. Il y a des petits détails qui nous font... Voilà, il y a des petites références. Déjà, ce ne sont pas des chapitres, ce sont des actes. Voilà, il y a 5 actes, comme dans la pièce originale de William Shakespeare. Il y a une scène qui peut faire penser à l'histoire du balcon. À quel moment vous vous êtes dit « j'ai envie d'écrire un ouvrage sur la Corée du Nord » et « Roméo et Juliette » s'est imposé comme quelque part une référence?
Donc j'avais envie d'écrire effectivement sur la Corée du Nord, j'avais envie d'écrire une histoire d'amour et là je me suis dit quelle histoire d'amour, sur quel modèle me fonder et assez vite est venue l'idée que dans le pays le plus singulier qui soit, qu'on connaît très très mal et qui est vraiment très étrange, pour donner des repères au lecteur, c'était peut-être une bonne idée de choisir l'histoire d'amour la plus universelle pour donner... quelques points d'appui. Mmh. C'est une idée qui m'est venue aussi. J'avais beaucoup aimé un roman asiatique d'un auteur japonais qui s'appelle Mishima Yukio. Et Mishima a écrit donc ce roman qui s'appelle Le tumulte des flots et qui se passe dans une île très typique de pêcheurs de perles autour du Japon. Et il raconte une histoire d'amour et il a choisi une histoire d'amour assez universelle puisqu'il a pris Daphnis et Chloé comme modèle. Et donc, je m'étais dit, autant essayer de faire quelque chose de ce type-là.
D'accord.
Voilà. Et Roméo et Juliette s'est imposé parce qu'il y avait la dimension tragique qui collait bien avec la Corée du Nord.
Avec la situation dans ce pays, oui.
À la différence que là, l'héroïne a plus... plus. On ne peut pas dire ça exactement, Le roman est basé autour plutôt du héros, mais voilà, sans la raconter, la fin est un petit peu plus engageante pour tous les deux que Roméo et Juliette, je trouve.
La fin est peut-être un peu plus ouverte aussi.
Voilà, c'est ça que je veux dire.
Ouais, tout à fait.
C'est pas exactement pareil que Roméo et Juliette, mais...
C'était une volonté, justement, de garder un peu d'espoir, finalement.
Oui, j'avais envie de quelque chose qui reste une lumière. Et c'est un terrain très noir, très sombre... très terne, la Corée du Nord. Et je voulais faire pousser montrer que dans un terrain vague, même délabré, peuvent pousser quelques fleurs et la lumière peut
éclore. Oui,
voilà, les fleurs peuvent éclore.
Et oui, justement, et de pouvoir justement laisser au lecteur cette possibilité de dire tout n'est pas faux. On n'est pas justement, ce que tu disais, Claire-Marie, dans une dystopie vraiment complète.
Mais ça frappe comment nous, c'est tellement éloigné de notre univers, tu vois, cette vie-là, même si je pense qu'on peut y trouver, sans comparaison aucune, mais on peut y trouver un petit peu des parallèles avec des éducations qu'on peut avoir qui soient très, par exemple, très religieuses au point d'être enfermantes. Encore une fois, c'est pas exactement le même parallèle, on parle pas d'exécution, etc., mais on peut y trouver des parallèles. Mais ce que j'ai trouvé vraiment frappant, c'est que voilà, c'est tellement éloigné des systèmes qu'on peut connaître nous, ou en tout cas, on a conscience de connaître, que pour moi, ce qui s'en rapprochait le plus au départ, c'était la dystopie. C'était « Ah tiens, il a imaginé un monde où... » Non, c'est pas imaginé, en fait. C'est la réalité. Et pour en revenir à ce qu'on disait au début, lors de votre voyage où le but, c'est de vous montrer la meilleure vision du pays, j'imagine que quand même, on en parle de ça. Est-ce qu'on assiste un petit peu à des démonstrations de dévouement, de dévotion aux généraux, justement?
Ah oui.
Voilà, ça, on doit vous le montrer quand même, des gens qui chantent tous.
Plus que nous le montrer, on doit nous-mêmes le faire.
D'accord, ah oui.
Ah oui,
oui, okay.
D'accord. Pour montrer, justement, que vous adhérez à ce système-là.
C'est le jeu, quoi.
On ne nous demande pas d'adhérer, mais on nous demande de montrer un respect. Il y a une visite qui est imposée. dans ces tours touristiques, qui est la visite du palais du soleil. Donc le soleil, c'est notre cher président éternel, et c'est là que, dans ce palais, sont cryogénés les deux chers dirigeants décédés, donc un peu comme Lénine sur la place Rouge. Et c'est une sortie les Coréens viennent de tout le pays une fois dans leur vie. Où...
C'est un pèlerinage, quoi.
Voilà, c'est un pèlerinage. Et donc, tous les dimanches, il y a plein de Nord-Coréens qui vont là-bas. Et nous, on était dans un de ces flux-là. Et effectivement, quand on arrive là où sont cryogénés dans une bulle de verre les deux grands dirigeants, il faut s'incliner... sur trois côtés, d'ailleurs, c'est tout très, très ritualisé. Et il y a une dame, une jeune femme qui déclame des choses en nord-coréen en hommage. Alors, on ne comprend pas grand-chose, mais il y a un côté très tragédie. On a l'impression que c'est une actrice qui joue une tragédie antique dans sa voix. C'est l'intonation. Moi, c'est à ça que ça m'a fait penser. Donc, il y a beaucoup d'émotions qui transparaissent. Beaucoup d'émotions, de dévotion qu'on entend dans cette jeune femme nord-coréenne qui introduit les chers dirigeants aux visiteurs.
C'est vrai qu'on a ces images en tête aussi des funérailles, quand le cher président ou le cher général sont décédés, il y a ces images de foule en larmes, comme des pleureuses qu'on pouvait retrouver dans l'Antiquité, je crois. Et tout ça est finalement, alors on pourrait se dire, nous en tant qu'Occidentaux, c'est de la comédie, ils font ça parce que s'ils ne le font pas, on imagine les représailles et tout ça.
Non,
mais en lisant votre livre, on comprend vraiment qu'ils sont ultra sincères et parce qu'ils ont été élevés comme ça, en
exactement,
fait. Et qu'ils n'imaginent pas que tout le reste du monde, d'où le titre du roman, nous n'avons rien à envier au reste du monde, c'est vraiment tout le reste du monde est dans le mal et prend la mauvaise voie et nous sommes les seuls, grâce à nos chers dirigeants, à avoir pris la bonne voie et c'est nous qui avons raison. Donc on voit vraiment tout le côté très ancré, justement, presque du lavage de cerveau, quoi.
Il y avait aussi un autre thème. Certes, il y a l'histoire d'amour qui est très présente, mais il y a le rapport à la mère aussi, à l'héritage, puisque de par sa descendance, donc Yoongi, tu l'as bien prononcé, toi ?
Yoongi, c'est ça.
C'est Simon qui va me donner des cours de coréen.
Donc, on aura tout vu.
Yoongi, de par sa mère, il a une situation un petit peu problématique dans son Sungbon. C'est ça,
Sungbon, oui.
Qui est son numéro, sa classe sociale en fait, et pas la bonne.
Ingrédients.
Voilà, ses ingrédients, c'est ça. Et ça, c'est aussi quelque chose, c'est comment finalement, parce que c'est un peu un roman d'apprentissage. Il vit cette histoire d'amour, c'est l'occasion pour lui de vivre le changement, justement, dans son cœur et dans son corps. Mais donc, comment lui finalement, c'est sa mère qui le sauve aussi à un moment, mais comment lui, au début du roman en tout cas, il est un peu remonté quand même contre sa mère. Enfin, c'est pas... À la fois, il le montre en exemple, qu'elle travaille au marché et tout ça, et à la fois, ça le dessert, en fait. Et puis finalement, c'est elle qui l'aide à s'échapper.
Alors, donc, j'ai construit le roman en essayant de trouver l'opposition entre les Capulet et les Montagu, qui soit la plus crédible possible. Et c'était absolument pas possible de faire deux familles opulentes qui s'opposent... ou de gangs qui s'opposent, comme on a dans certaines versions de Roméo et Juliette. Là, l'opposition la plus crédible, c'était une différence de classe sociopolitique. Ouais. Sociopolitique. Et chaque personne en Corée du Nord a ce qu'on appelle un songbun, qui veut dire ingrédient en coréen. Et le songbun, c'est les ingrédients dont chaque individu est constitué. Et ces ingrédients-là, c'est ses actions, la pertinence de ses actions au regard de l'idéal socialiste nord-coréen. C'est aussi la pertinence des actions de ses ancêtres sur trois générations, donc de ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, et puis ses cousins, la famille élargie. Et donc Miran, elle, a la chance de faire partie d'une famille dont son père est membre, un dirigeant local du parti, puisque ça ne se passe pas à la capitale, ça se passe à Sinuiju, une ville en province à l'ouest, au bord d'un fleuve qui longe la Chine. Le Yalu, le Yalu qui est le nom chinois et le Amnok qui est le nom coréen. Et lui, Yoongi, sa famille n'a pas du tout le même pédigré puisque une cousine de sa mère a tenté de s'enfuir en Chine. Donc ça, c'est le crime, la trahison la plus terrible.
Ça met une tache sur la famille du coup.
Et son père est mort dans un accident et sa mère, elle, justement travaille au marché gris, donc qui d'abord était un marché noir
qui
s'est constitué. de façon spontanée pour aider tout simplement le peuple à survivre à la famine. Donc des gens se sont organisés en marché au moment des grandes famines des années 90. Et la mère de Yoongi a fait ça et s'est mise à prospérer, donc est devenue presque un agent un peu capitaliste au sein de la Corée du Nord, ce qui n'est pas très toléré, mais pas non plus très bien vu, ce qui explique donc que les ingrédients de Yoongi ne soient pas du tout de la même pureté que ceux de Miran, et d'où le fait qu'il lui parlait presque sacrilège.
Oui, c'est là où on voit justement toute la tragédie de cette histoire d'amour. En tout cas, voilà, on ne saurait que trop vous conseiller de lire ce livre. Les héros sont ultra attachants. On tremble pour eux, on est là en train de dire « mais réveille-toi, mais non, mais sors de ce lavage de cerveau ». Et voilà, c'est jusqu'au bout, même un petit twist à la fin.
On voudrait savoir où on peut vous retrouver sur les réseaux. Est-ce que vous avez une actualité? Est-ce qu'on peut voir vos dates de dédicace quelque part ou
Alors, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Nicolas Godumet. Également, mon agenda de dédicace est sur mon site auteur, donc c'est nicolasgodemet.fr. Et là, il y a une page agenda.
Parfait.
Très bien.
On ira voir ça avec plaisir.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Et on rappelle, nous n'avons rien à envier au reste du monde. C'est à retrouver aux éditions de l'Observatoire.
Merci.
Encore merci.
Merci à vous.
Et à bientôt. I'm so good.